Et les midis reprennent. À 13h, je serai en compagnie de la romancière Margaret Atwood, mais tout de suite, je suis en compagnie de Marie Sorbier. Bonne année, Marie.
Mais bonne année, Marie. Alors, je ne sais pas si c'était le cas chez vous, mais nombre d'enfants avaient sur leur bureau un petit globe, vous savez, bleu pétard en plastique, made in China. Voilà, et on adorait ça. Eh bien, c'est fini, l'industrialisation, et bienvenue à l'artisanat d'art. Alain Sauter est le seul fabricant français de globes terrestres fait main, et il raconte, depuis Besançon où il a installé sa manufacture, ce savoir-faire qu'il a dû totalement réinventer. Alain Sauter, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes le fabricant de globes terrestres et célestes français. Je dis le parce qu'il n'y en a plus d'autres et c'est justement ce manque qui vous a fait changer de carrière. Vous étiez enseignant-chercheur en géographie et vous avez décidé d'apprendre seul le métier. Comment apprend-on ce savoir-faire ?
Oh là là, alors il faut effectivement beaucoup de temps et de patience et surtout beaucoup de passion. C'était vraiment ça qui m'a animé. Vous avez raison, effectivement, quand moi j'ai démarré en 2016, il y avait personne en France et c'était vraiment l'idée de relancer le savoir-faire et puis de reprendre, l'ensemble des process du début à la fin pour vraiment créer ce qu'on appelle une manufacture. On a donc l'ensemble des savoir-faire. Ça passe par de la bibliographie. Ça, c'était mon prérequis quand j'étais enseignant-chercheur. Un petit peu le réflexe, une bibliographie dont on fait très vite le tour parce que globalement il n'y a rien, malheureusement. Les entreprises ont fermé les unes après les autres sans qu'il y ait vraiment d'archives et on va retrouver, c'est toujours un peu le clin d'œil, ça fait rigoler, le seul moment d'archives qu'on peut retrouver réellement, une sorte presque de tutoriel, ça serait dans l'encyclopédie de Diderot. Donc on remonte à franchement très très loin.
Mais donc ça veut dire que les anciens, parce que les dernières manufactures de globes, c'était quoi, dans les années 70 elles
oui.
Ça veut dire qu'eux n'ont pas laissé de mode d'emploi.
Non, effectivement, ça s'est arrêté dans les années 60. En France, c'était assez probablement la maison Tardieu qui faisait également beaucoup de cartes. Il y avait une très belle entreprise en République tchèque également qui, elle, a littéralement brûlé. Donc là, il n'y a plus du tout d'archives. Et le fait est que c'était souvent c'était rare que ça soit une usine où on fasse tout du début à la fin. En fait, Tardieu était un éditeur, donc il mandatait un cartographe. Il y avait en parallèle une entreprise qui devait probablement fabriquer les sphères et une autre qui devait fabriquer les soclages. C'était plutôt tout un tas d'entités différentes, une sorte de cascade. Et donc, du coup, quand ça s'arrête, en cascade, tout se perd.
Alors, vous étiez chercheur en géographie, mais créer un globe, ça nécessite aussi des connaissances en géométrie, non ?
Oui, effectivement, énormément même. J'ai été assez surpris quand j'ai commencé mon travail parce que je me suis dit, allez, je suis géographe, j'ai une thèse en poche, j'aime bien faire des choses de mes mains, ça va aller tout seul. Eh ben non, il a fallu vraiment un an et demi pour retrouver des gestes et avoir un globe qu'on pourrait dire présentable, qui était, pour forcer le trait, qui était tout juste tout rond. C'est effectivement énormément de géométrie et dans cette géométrie, on a une constante qui est partout et qui nous oblige à une très forte précision, c'est le chiffre pi, qui doit être des bons ou des très mauvais souvenirs pour certains des auditeurs. Le fameux 3,14, qui veut dire que nous, sur notre sphère, puisqu'il nous faut bien une sphère pour démarrer notre travail, quand on la fabrique, si je fais 1 mm d'erreur, je me retrouve avec 3,14 mm à l'équateur. Et ça commence à être vraiment très visible. Donc voilà, une géométrie constante qui nous oblige à être très carré dans un sens, alors qu'on passe notre temps avec des ronds.
Mais la Terre, elle n'est pas tout à fait ronde. Alors comment on peut être le plus précis, le plus juste possible quand on dessine sur un globe les mers et les territoires ?
Alors vous avez raison, la Terre n'est pas tout à fait ronde et on est confronté à un réel problème de géométrie qui pour le coup est insoluble. On peut pas mettre quelque chose de rond sur quelque chose de plat. Et du coup, inversement, toutes mes cartes de géographe, on peut pas les mettre sur un rond. Donc il faut trouver une forme qui s'en approche. Alors la Terre n'est pas ronde, elle est légèrement aplatie au pôle du fait de la rotation, mais c'est vraiment des valeurs insignifiantes. Nous, à l'échelle d'un globe, ça se voit pas, c'est l'équivalent de quelques dizaines de millimètres. Et puis ensuite, on va fabriquer ce que l'on nomme, d'un point de vue technique, un zozoèdre. En fait, le mot est rigolo. On fabrique des globes à partir de fuseaux de papier qui reprennent une forme d'amande ou une forme de kayak. Ces fuseaux, qui a décliné derrière le terme de fuseau horaire, c'est la forme qui se rapproche le plus du galbe de la sphère. Et donc, on va imprimer nos cartes en 12 morceaux de papier, 12 fuseaux, 12 formes effilées qu'on va pouvoir recoller sur notre sphère.
Est-ce qu'il y a des mises à jour nécessaires selon l'avancement des connaissances ? Est-ce qu'on apprend encore de nouvelles choses sur la géographie de la Terre qui feraient que vous êtes obligé de vous adapter à chaque globe commandé ?
Alors, je dirais oui et non. Et j'aurais presque envie de dire heureusement que non, puisque les gros changements aujourd'hui sont plus géophysiques. On connaît la surface des terres émergées, on la connaît parfaitement du fait des satellites qui tournent autour de nous. Les surfaces sous l'eau, on les connaît extrêmement peu et c'est un sujet extrêmement brûlant en ce moment. Donc ce qui nous reste de très variable, ce sont les frontières géopolitiques et qui, elles, malheureusement, vont avoir des mouvements qui sont très souvent liés à des conflits. Donc j'ai envie de dire, le moins on peut faire de mise à jour et le mieux c'est. Le dernier grand changement qui est apparu sur nos cartes, c'était la séparation des Soudans. Et derrière se pose la question de moi, en tant que géographe, fabricant de globes, où est-ce que je fais passer mes frontières ? C'est une réelle question, en fait, hein, que nos clients vont nous poser. Et à ce moment-là, on va se rattacher au discours diplomatique de la France qui se rattache assez souvent au discours de l'ONU. Ce qui fait que dans le cas de l'Ukraine, on est sur les frontières reconnues par la communauté internationale.
Mais alors, vous créez aussi des globes célestes. Est-ce que, un peu la même question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être assez précis sur, la géographie de la Lune pour la matérialiser en globe ?
Oui, alors là, on a une chance énorme d'avoir des données extrêmement précises. On pourrait faire des globes qui font, au moins 200 mètres de diamètre, tellement la précision est phénoménale. En ce qui concerne les étoiles, on n'en représente qu'une infime partie, puisqu'il y en a beaucoup qui sont tellement éloignées qu'elles ne sont pas visibles. Et à partir de là, on utilise les bases de données de l'Organisation internationale de l'astronomie. Donc on a un positionnement extrêmement précis, des caractéristiques sur leur brillance. Donc tout ça, on peut vraiment le mettre en carte facilement. Et sur la Lune, qui est l'astre le plus proche de nous et qui est le plus étudié depuis l'Empire grec, même dans un sens, c'est extrêmement cartographié, c'est extrêmement nommé en latin, par convention. Et là, on va utiliser des données qui sont essentiellement produites par la NASA, qui a toujours, encore aujourd'hui, on croise les doigts pour que ça dure, une politique de diffusion de l'information. Donc voilà, c'est des données qui sont librement utilisables.
Alors, on vient de parler de géographie, on a parlé de géométrie, mais il y a quand même une grande part artistique aussi dans ce que vous faites, dans cette création de globes. Ce sont des objets d'art, les globes que vous créez au quotidien dans votre manufacture.
Alors, ça a vocation à être des objets utilitaires, mais effectivement, ça ressemble de plus en plus à des objets d'art. Et je dirais presque tant mieux. En fait, la question qu'on nous pose régulièrement quand les gens viennent chez nous à la boutique ou à l'atelier...
Vous êtes à Besançon, n'est-ce pas ?
On est à Besançon, effectivement. C'est « Ah oui, mais c'est fragile ». Nous, la réponse, elle est constante. C'est fragile comme beaucoup de choses à la maison. Et du moment qu'on y fait attention, il n'y a pas de raison que ça casse, puisque en fait, c'est pas si fragile que ça. Et c'est vraiment, du coup, une œuvre d'art qui ressemble un peu à un bijou, volontairement, qui va être un miroir de notre planète. Et on va y ramener énormément de poésie finalement dans ce globe. Et c'est une réflexion même sur l'objet globe en lui-même. C'est plus du tout aujourd'hui une encyclopédie, un globe, comme ça a pu être à l'époque quand on avait les globes dans les salles de classe. Aujourd'hui, on a tous un téléphone pas loin, une connexion Internet et une cartographie extrêmement détaillée de n'importe quel bout du monde. Et ce qui reste au globe, c'est vraiment cette capacité de pouvoir voyager de manière immobile, de pouvoir imaginer, de pouvoir se balader juste avec le bout du doigt. Et voilà, donc nous, on va jouer à fond ce côté poésie, ce côté échappatoire, dans un sens.
Ils sont peints à la main, vos globes ?
Oui, effectivement, on fait toute la peinture à la main, à l'aquarelle, oui.
Mais donc, j'imagine que les personnes qui peignent un globe pendant plusieurs heures, avec ce degré de précision, vous parliez de bijoux, mais il y a quelque chose presque de l'ordre de l'horlogerie quand on crée, j'imagine, quand on dessine un globe. Eux aussi voyagent en dessinant les frontières ?
Effectivement, c'est un moment où on est vraiment suspendu. On est dans une concentration extrême parce qu'il faut pas déborder, il faut faire ça de manière très propre. Mais du coup, on est coincé dans cette bulle temporelle où on est obligé de prendre le temps. Et vous avez raison, c'est extrêmement proche de l'horlogerie. Et on a énormément de liens d'ailleurs avec le monde de l'horlogerie dans le sens où on cherche ces petits détails, parfois même ces micro-défauts volontaires qui vont rajouter un petit peu de texture. Et du coup, on fait le tour du monde sans bouger de notre chaise depuis Besançon.
Des micro-détails, mais aussi des ajouts, parce qu'il faut le dire, ces globes, ils ne sont disponibles qu'à la commande, c'est-à-dire que les gens vous appellent et commandent un globe, que ce soit des institutions ou des particuliers, et parfois certains vous demandent d'ajouter sur le globe quelque chose de particulier.
Oui, effectivement, on va dire que l'énorme majorité de nos globes sont faits à la commande. On a très peu de revendeurs. Et quand c'est à la commande, on laisse la liberté à nos clients de personnaliser la carte. Le premier réflexe qu'on a tous devant une carte, c'est de montrer où est-ce qu'on habite. Donc on met très facilement le lieu d'habitation, le lieu de naissance ou du moins n'importe quel lieu qui compte. On va pouvoir ajouter des trajets autour du monde. On l'a fait il n'y a pas longtemps pour un pilote de ligne qui est parti à la retraite, retracer l'ensemble de ses trajets à travers le monde. On l'a fait pour des skippers et on le fait pour des voyages à vélo. Voilà. Rajouter par exemple également des monstres au fond des océans, que ça soit des monstres imaginaires de l'Antiquité ou que ça soit les dessins des enfants parfois qu'on va retravailler et remettre dans les océans.
Bien, merci beaucoup Alain Sauter.
Merci à vous.
Ben merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain, en attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.